Il n'y a jamais à désespérer d'un cœur honnête, mais il y a peu d'espoir pour ceux qui ne regardent leur perversité en face que de temps en temps et cherchent aussitôt à la cacher. Leur prière n'indique pas ce qu'est leur caractère. Ils se lient secrètement avec le péché, et Jésus dit de ces dehors trompeurs qu'ils sont semblables à des sépulcres blanchis, pleins de toute espèce d'impureté. Si un homme, bien qu'apparemment fervent et adonné à la prière, est impur et partant insincère, quel jugement portera-t-on sur lui? S'il atteignait à l'élévation de sa prière, il n'y aurait nulle occasion de le juger. Quand nous ressentons l'aspiration, l'humilité, la gratitude et l'amour qu'expriment nos paroles, Dieu les accepte et il est sage de ne pas chercher à nous tromper nous-mêmes ni à tromper les autres. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Les déclarations et les prières à haute voix sont semblables à la charité vue sous un certain angle. Elles couvrent une multitude de péchés. Prier pour avoir l'humilité, quelle que soit la ferveur de nos paroles, n'indique pas toujours le désir d'être humble. Si nous nous détournons des pauvres, nous ne sommes pas prêts à recevoir la récompense de celui qui bénit les pauvres. Nous avouons que notre cœur est très pervers et nous demandons qu'il soit mis à découvert devant nous, mais n'en savons-nous pas déjà plus long sur ce cœur que nous n'en voudrions faire voir à notre prochain? Nous devrions nous examiner pour apprendre quelles sont les affections et les intentions du cœur, car c'est ainsi seulement que nous pouvons apprendre ce que nous sommes réellement. Si un ami nous signale un défaut, écoutons-nous patiemment la réprimande et ajoutons-nous foi à ce qu'il dit? Ne rendons-nous pas plutôt grâce de n'être pas comme le reste des hommes? Durant bien des années, l'auteur a accepté avec une grande reconnaissance les observations qui étaient méritées. Le mal réside dans le blâme immérité, dans le mensonge qui ne fait de bien à personne. La réponse aux questions suivantes est la pierre de touche de toute prière. Aimons-nous mieux notre prochain parce que nous demandons de l'aimer? Persévérons-nous dans notre ancien égoïsme, satisfait d'avoir prié pour obtenir quelque chose de meilleur, bien que nous ne donnions aucune preuve de la sincérité de nos requêtes en vivant conformément à notre prière? Si l'égoïsme a fait place à la bonté, nous ne serons plus égoïstes dans nos rapports avec notre prochain et nous bénirons ceux qui nous maudissent. Mais nous n'accomplirons jamais ce noble devoir simplement en demandant qu'il en soit ainsi. Nous avons une croix à porter avant de pouvoir jouir du fruit de notre espérance et de notre foi. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup. Même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel ni volonté humaine. Êtes-vous disposé à tout abandonner pour le Christ, pour la vérité, et ainsi à être mis au rang des pécheurs? Non. Désirez-vous réellement atteindre ce stade? Non. Alors pourquoi faire de longues prières à ce sujet et demander à être chrétien puisque vous n'avez pas envie de marcher sur les traces de notre cher maître? Si vous ne voulez pas suivre son exemple, pourquoi demander avec les lèvres de participer à sa nature? La prière logique, c'est le désir de bien agir. La prière implique que nous désirons marcher dans la lumière et que nous y marcherons dans la mesure où nous la recevrons, quand même ce serait avec des pieds ensanglantés, et que, nous attendant patiemment au Seigneur, nous nous en remettrons à lui pour la récompense de nos désirs réels. Il faut que le monde parvienne à la compréhension spirituelle de la prière. Si nous sommes suffisamment bons pour bénéficier de la coupe des peines terrestres de Jésus, Dieu nous soutiendra dans ses peines, jusqu'à ce que nous soyons ainsi divinement préparés et que nous soyons disposés à boire sa coupe, des millions de veines redites ne verseront jamais dans la prière l'onction de l'esprit qui démontre la puissance par les miracles qui l'accompagnent. La science chrétienne révèle la nécessité de vaincre le monde, la chair et le mal, et de détruire ainsi toute erreur. Chercher ne suffit pas, il faut lutter pour entrer. Les gains spirituels ouvrent la porte sur une compréhension plus élevée de la vie divine. Au Tibet, une des formes du culte consiste à parcourir les rues avec un moulin à prière et à s'arrêter aux portes en le faisant tourner afin de gagner un sou. Mais l'avant-garde du progrès a payé le privilège de prier du prix de la persécution. L'expérience nous apprend que nous ne recevons pas toujours les bénédictions que nous demandons dans nos prières. Nous comprenons mal la source et les dispensations de toute bonté et de toute félicité. Autrement, nous recevrions certainement ce que nous demandons. Les Écritures disent « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Il n'est pas toujours bon que nous recevions ce que nous désirons et demandons. Dans ce cas, l'amour infini ne répondra pas à notre requête. Demandez-vous à la sagesse d'être miséricordieuse et de ne pas punir le péché ? Alors, vous demandez mal. S'il n'était pas puni, le péché se multiplierait. La prière de Jésus, « Pardonne-nous nos offenses », spécifia aussi les conditions du pardon. Lorsqu'il pardonna à la femme adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus. » Un magistrat remet parfois la peine, mais cela peut n'être d'aucun avantage moral pour le criminel, et tout au plus cette rémission lui épargne-t-elle une seule forme de châtiment. La loi morale, qui a le droit d'acquitter ou de condamner, exige toujours des mortels leur rétablissement moral avant qu'ils puissent monter plus haut. La transgression de la loi entraîne la peine afin de contraindre au progrès. Le pardon purement légal, et il n'y en a pas d'autre car le principe divin ne pardonne jamais nos péchés ou nos fautes avant qu'ils ne soient corrigés, laisse le coupable libre de répéter l'offense si toutefois il n'a pas déjà suffisamment souffert du vice pour s'en détourner avec dégoût. La vérité n'accorde aucun pardon à l'erreur, mais l'efface de la manière la plus efficace. Jésus souffrit à cause de nos péchés, non pour annuler la sentence divine rendue contre le péché commis par quelqu'un, mais parce que le péché entraîne inévitablement la souffrance. Les supplications n'apportent aux mortels que les résultats de leur propre foi. Nous savons que le désir de sainteté est requis pour obtenir la sainteté. Mais si nous désirons la sainteté par-dessus tout, nous lui sacrifierons toute chose. Il faut que nous soyons prêts à faire cela, afin de pouvoir marcher en toute sécurité dans le seul chemin pratique menant à la sainteté. La prière ne peut changer l'inaltérable vérité, et la prière seule ne peut non plus nous donner la compréhension de la vérité. Mais la prière, unie à un désir fervent et habituel de connaître et de faire la volonté de Dieu, nous guidera dans toute la vérité. Un tel désir n'a guère besoin d'être exprimé en paroles. C'est dans la pensée et dans la vie qu'il s'exprime le mieux. La prière de la foi sauvera le malade, dit l'Écriture. Quelle est cette prière qui guérit? Simplement demander à Dieu de bien vouloir guérir les malades ne peut nous donner plus de la présence divine que ce qui est toujours là. L'effet bienfaisant d'une telle prière pour les malades se fait sentir dans l'entendement humain, le faisant agir plus puissamment sur le corps en raison d'une foi aveugle en Dieu. Cela, pourtant, n'est qu'une croyance qui en chasse une autre, une croyance à l'inconnu qui chasse une croyance à la maladie. Ce qui agit par une croyance aveugle n'est ni la science ni la vérité. Ce n'est pas non plus la compréhension humaine du divin principe guérisseur tel qu'il fut manifesté en Jésus, dont les humbles prières étaient des affirmations profondes et consciencieuses de la vérité, de la ressemblance de l'homme avec Dieu, et de l'unité de l'homme avec la vérité et l'amour. La prière, adressée à un Dieu corporel, agit sur les malades comme le fait un médicament qui n'a aucune efficacité en soi, mais qui emprunte son pouvoir à la foi et à la croyance humaine. Le médicament est impuissant parce qu'il n'a pas d'intelligence. C'est une croyance mortelle, non le principe divin ou l'amour divin, qui rend un médicament apparemment toxique ou curatif. L'habitude générale de prier pour le rétablissement des malades s'appuie sur la croyance aveugle, alors que le secours devrait venir de la compréhension éclairée. Les changements dans la croyance peuvent se succéder indéfiniment, mais ce ne sont là que les produits de la pensée humaine et non la conséquence naturelle de la science divine. La divinité intervient-elle en faveur d'un adorateur et refuse-t-elle son aide à un autre qui offre la même mesure de prière? Si les malades recouvrent la santé parce que c'est à haute voix qu'ils prient ou que l'on prie pour eux, seuls ceux qui prient ainsi, pour eux-mêmes ou pour ceux qui le leur demandent, devraient être guéris. En science divine, où les prières sont mentales, tous peuvent se prévaloir de Dieu comme d'un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'amour est impartial et universel dans son adaptation et dans ses dispensations. C'est la fontaine jaillissante qui crie « Ô vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux !» Dans la prière faite en public, nous dépassons souvent nos convictions, nous dépassons le stade honnête du désir fervent. Si dans le secret du cœur nous n'avons pas le fervent désir de voir s'accomplir tout ce que nous demandons, si nous ne nous efforçons pas ouvertement d'y atteindre, nos prières sont de vaines redites, comme celles dont se servent les païens. Si nos supplications sont sincères, nous travaillerons pour avoir ce que nous demandons, et notre Père, qui voit dans le secret, nous récompensera publiquement. Nos désirs peuvent-ils être accrus simplement parce que nous les exprimons en public? Gagnons-nous plus vite l'oreille omnipotente par des paroles que par des pensées? Même si notre prière est sincère, Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que lui-même ou nos semblables n'en soient informés. Si nous chérissons nos désirs honnêtement, silencieusement et humblement, Dieu les bénira et nous courrons moins le risque de submerger nos vœux réels sous un torrent de paroles. Si nous prions Dieu en tant que personne corporelle, cela nous empêchera de nous défaire des craintes et des doutes humains qui accompagnent une telle croyance. Et nous ne pourrons par conséquent saisir les merveilles accomplies par l'amour infini, incorporel, à qui toutes choses sont possibles. En raison de l'ignorance humaine concernant le principe divin, l'amour, le Père de tout est représenté comme un créateur corporel. Par conséquent, les hommes se croient purement physiques, et sont ignorants de l'homme en tant qu'image ou reflet de Dieu, ainsi que de l'éternelle existence incorporelle de l'homme. Le monde de l'erreur est ignorant du monde de la vérité, aveugle sur la réalité de l'existence de l'homme, car le monde de la sensation n'a aucune connaissance de la vie qui est dans l'âme, non dans le corps. Si les sens nous attachent au corps et si nous considérons l'omnipotence comme une personne corporelle et matérielle, dont nous voudrions gagner l'oreille, nous ne sommes pas absents du corps et présents avec le Seigneur dans la démonstration de l'Esprit. Nous ne pouvons servir deux maîtres. Être présent avec le Seigneur, c'est avoir non pas une simple extase ou foi émotive, mais la démonstration et la compréhension véritable de la vie telle que la science chrétienne la révèle. Être présent avec le Seigneur, c'est obéir à la loi de Dieu, être absolument gouverné par l'amour divin, par l'esprit, non par la matière. Devenez conscient un seul moment du fait que la vie et l'intelligence sont purement spirituelles, qu'elles ne sont ni dans la matière, ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune plainte. Si vous souffrez d'une croyance à la maladie, vous vous trouverez soudainement guéri. Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la vie, la vérité et l'amour spirituel. D'où l'espoir que donne la promesse de Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, parce que je vais auprès du Père. Parce que l'ego est absent du corps et présent avec la vérité et l'amour. La prière du Seigneur est la prière de l'âme, non du sens matériel. La vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans ce lieu secret, et ton Père, qui voit ce qui est secret, te récompensera publiquement. Ainsi parla Jésus. La chambre symbolise le sanctuaire de l'esprit, dont la porte se ferme au sens pécheur, mais laisse entrer la vérité, la vie et l'amour. Close à l'erreur, elle est ouverte à la vérité, et vice-versa. Le Père dans le secret est invisible au sens physique, mais il connaît toutes choses et récompense selon les mobiles, non selon les paroles. Pour pénétrer au cœur de la prière, il faut que la porte des sens trompeurs soit fermée. Les lèvres doivent être muettes et le matérialisme doit se taire pour que l'homme puisse avoir audience de l'esprit, le principe divin, l'amour qui détruit toute erreur. Pour bien prier, il nous faut entrer dans la chambre et en fermer la porte. Nous devons fermer les lèvres et imposer silence au sens matériel. Dans le tranquille sanctuaire des aspirations ferventes, nous devons nier le péché et affirmer la totalité de Dieu. Nous devons prendre la résolution de porter la croix et aller de l'avant, le cœur honnête, pour travailler et veiller afin de trouver la sagesse, la vérité et l'amour. Nous devons prier sans cesse. Une telle prière est exaucée dans la mesure où nous mettons nos désirs en pratique. Le commandement de notre Maître est que nous prions dans le secret et que notre vie atteste notre sincérité. Les chrétiens se réjouissent d'une beauté et d'une abondance invisibles cachées au monde, mais connues de Dieu. L'oubli de soi, la pureté et l'affection sont des prières constantes. La pratique, non les professions de foi, la compréhension, non la croyance, gagnent l'oreille et la droite de l'omnipotence et nous attirent assurément des bienfaits infinis. La foi éclairée a pour fondement le fait d'être digne de confiance. Nous ne pouvons recevoir la sainteté si nous ne sommes pas aptes à la recevoir. Un grand sacrifice de choses matérielles doit précéder cette compréhension spirituelle avancée. La prière la plus élevée n'est pas simplement la prière de la foi, elle est démonstration. Une telle prière guérit la maladie et détruit forcément le péché et la mort. Elle distingue la vérité qui est exempte de péché de la fausseté du sens pécheur. Notre Maître enseigna à ses disciples une seule et brève prière que nous nommons, en souvenir de lui, la prière du Seigneur. Notre Maître dit « Voici donc comment vous devez prier. » Et c'est alors qu'il donna cette prière qui répond à tous les besoins humains. Il est vrai qu'il y a parmi les biblicistes des doutes sur l'authenticité de la dernière phrase qui, selon eux, peut avoir été ajoutée à la prière par un copiste plus récent, mais cela ne change pas le sens de la prière elle-même. D'après l'original, l'expression « délivre-nous du mal » devrait être traduite par « délivre-nous du malin ». Cette interprétation fortifie notre compréhension scientifique de cette prière. Car la science chrétienne nous enseigne que le malin, ou l'unique mal, n'est qu'un autre nom pour désigner le premier mensonge et tous les menteurs. Ce n'est que dans la mesure où nous nous élevons au-dessus de tout ce qui se rapporte au sens matériel et de tout péché, que nous pouvons atteindre à l'aspiration céleste et à la conscience spirituelle exprimée dans la prière du Seigneur et qui guérissent instantanément les malades. Laissez-moi vous donner ici ce qui, selon ma compréhension, est le sens spirituel de la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, notre Père Mère Dieu, tout harmonieux, que ton nom soit sanctifié, unité adorable, que ton règne vienne, ton règne est venu, tu es toujours présent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous de savoir que de même qu'au ciel, ainsi sur la terre, Dieu est omnipotent, suprême. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous ta grâce pour aujourd'hui. Rassasie les affections affamées. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et l'amour se reflète dans l'amour. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la mort. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout et tout.